Qu'est-ce que vous voulez ?
Te faire retrouver le bonheur.
Radio Campus.
Hey, oh, let's go. Rock and roll music, and why I preach against it.
I believe that it is a contributing factor to our juvenile delinquency of today.
Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission de Rockologie en direct cette semaine. Une émission qui sera consacrée au genre de la power pop avec en ligne de mire la sortie d'une résurrection de deux singer-songwriters qu'on les appelait dans les années 70 jusqu'à maintenant. Pish and Lee, alors Pish c'est Harley Pish et Jack Lee c'est un autre. Harley Pish et puis Larry Lee, deux natifs de l'Iowa. Un état qui est vraiment perché au fin fond du Middle West et qui avait enregistré de 65 à 75 une poignée de singles, plutôt de titres qui n'avaient pas été encore exploités de façon commerciale. Le duo n'est pas sans rappeler le Lennon-McCartney des Beatles, ou plutôt plus proche de nous, le tandem des Badfinger, à savoir Pete Ham et puis Bill Evans, ou Pete Evans. Je m'emmêle toujours un petit peu les pinceaux sur les prénoms de ces artistes. Un groupe qui, bien qu'américain, se revendiquait des racines, on va dire, musicales anglaises, typiquement. Musique populaire avec des harmonies vocales telles qu'on la servait dans les années 60. On peut parler éventuellement aussi des Zombies, Hollies et les Turtles, qui eux étaient bien entendu américains. Les Harleys, Pish and Lee, donc enregistrent une poignée de titres qui vont être réédités ou qui ont été réédités récemment via le label Reminder, label spécialiste dans la cause power popienne, basé du côté de New York. L'objet du délit s'appelle Not for Sale 1965-1975. Tous les enregistrements, bien entendu, sont restés inédits. Mais avant de commencer les hostilités avec le cas de Pish and Lee, on va écouter un extrait des enregistrements de Harleys, cette fois-ci du côté du Nebraska, sous une autre étiquette musicale, un autre label, Titan Records, qui était le véhicule de bien des formations du cru local, drivé par le génial Tom Sorrells, qui avait imaginé une structure pour publier les artistes originaires des alentours de Kansas City dans le Missouri. Et on pouvait retrouver, bien entendu, les Harleys, qui était le groupe de Harleys Pitch. Et il y avait aussi un pléthore de groupes tels que les Boys, rien à voir évidemment avec le groupe anglais. Scott McCarl, l'ancien bassiste des Raspberries, comme quoi tout se tient. Nous sommes donc ensemble jusqu'à 17h. On va écouter de la power pop pur jus. Harleys pour commencer les hostilités dans Rockologie. 16h, 17h sur les ondes de Radio Orléans 88.3. We'll be right back. Vous êtes bien à bord de la Rockologie, l'émission en montée d'histoire du rock, qui vous offre une heure de power pop sur les ondes de Radio Campus Orléans 88.3, avec à l'instant un extrait de Peach & Lee, la rétrospective du tandem de l'Iowa, à savoir Larry Lee et puis Arliss Peach. Voilà, c'est vraiment pas des pseudonymes, c'est vraiment leur nom de baptême, c'est pas un sketch. Les Wigs, un autre groupe du cru, on va dire, du Middle West, plutôt du côté de Milwaukee, un peu plus au nord, qui avait édité en 81 un one-shot qui s'appelait File Under Pop Vocal, classé entre une version un peu plus nerveuse, un peu plus punk que les Plimsouls, mais avec toujours ce côté sous-jacent mélodique et puis surtout une redoutable proportion à créer des mélodies mémorables et accrocheuses. I Can See It Now, ça c'est le titre d'ouverture de cet album unique, rappelons-le, qui était édité sur un petit label à diffusion locale, les Wigs avec Files Under Pop the Vocal, et le titre I Can See It Now.
Machine. She's always
C'était donc les Tweeds à l'instant en Rockologie, chez l'émission à monter l'histoire du rock de Radio Campus Orléans 88.3. Les Tweeds, un groupe originaire de Boston dans le Massachusetts, qui était déjà actif en 69 avec, à la faveur d'un single qui s'appelait Everybody Guns Into a Prayer. Alors ça, c'est des sources que j'ai récupérées sur le site qui fait référence sur le genre musical power pop, Bubblegum The Punk, un site répertoriant un petit peu tous les groupes qui étaient actifs sous cette étiquette musicale entre 75 et 82, ce qui correspond grosso modo à un petit peu à l'âge d'or du genre. Un site internet qui a été drivé par un Toulousain, monsieur Pierre Gurdios, à qui l'on doit aussi l'existence du label Pop Superette, spécialisé dans les rééditions en tout genre, hein, avec quand même un... En tout genre, c'est un peu large et un petit peu réducteur, mais plutôt dans une sensibilité punk et puis la power pop, bien entendu, son cheval de bataille, si j'ose dire. Les Tweeds, donc, avec un extrait de leur deuxième EP, hein, puisque troisième, pardon, il y avait deux singles plus deux EP en 33 tours, édité chez Autobahn Records. Alors la particularité du genre, c'était bien entendu le do it yourself, c'est-à-dire chaque groupe fonctionnait en autonomie totale, et soit ils créaient leur propre label pour la diffusion de leur musique, ou ils allaient vraiment sur des petits labels à diffusion restreinte, actif sur un seul état, et puis il se faisait avaler par, par une grosse structure type un label major, comme il en existait quand même pas mal à l'époque, CBS, Columbia. Et ce genre musical a eu bien entendu son heure de gloire avec le groupe de Los Angeles Knack, et puis le néanmoins célèbre My Sharona, un titre qui a vraiment cristallisé le genre dans l'histoire du rock. Et puis bah, surtout qui avait permis à d'autres groupes de s'engouffrer dans la faille. On pense notamment aux Plume Soul qu'on a évoqué, les 2020, pour ne citer que les groupes actifs en Californie. Mais il faut savoir que c'est un petit peu comme le phénomène garage sur la décennie précédente. Chaque État possédait dans son sérail un certain nombre, un contingent de groupes actifs sur cette étiquette musicale qu'est la power pop. On peut caractériser ou définir le genre comme étant une, on va dire, un genre qui revivalise la pop active dans les années 60, à savoir bah, les groupes tels que les Beatles, on l'avait évoqué en début d'émission, mais tous les groupes sensibilité populaire en provenance de l'Angleterre, qui avaient fait bah, des émules aux États-Unis. Et puis des émules aux États-Unis, il y en a eu pléthore. Paul McCartney est évidemment, on va dire, en première ligne de mire, le premier créateur des Beatles. Il y avait Emmett Rhodes qui se réclame un peu de ce genre musical, de cet héritage musical. Emmett Rhodes qui, de son Los Angeles natal, Hawthorne, pour être plus précis, la bourgade qui avait vu l'émergence des Beach Boys, avait, au début des années 70, sous couvert d'un succès presque national avec son premier groupe, les Merry-Go-Round, signé avec le label ABC Records, un contrat qui avait vu l'émergence de trois disques qui ont été, on va dire, célébrés et salués comme des classiques du genre. On va écouter un extrait de Emmett Rhodes, le deuxième, Mirror, hein, puis Take You Far Away, un titre qui, bien que mélodique, est exécuté un petit peu dans l'urgence avec beaucoup beaucoup d'effets. Emmett Rhodes, et puis on va continuer avec un autre groupe de la même période, bah, on va compter les Aerovents avec un titre qui lui aussi est très pop, Worlds of You, avec des, on va dire, des incartades psychédéliques sous haute influence Badfinger, qui était le groupe anglais qui avait fait la suite des Beatles.
Take you away, babe. Take you away. Take you away, babe. Take it far away. Take it far away. Long distance call you. You say hello.
You no longer need to feel my love. It's a new world of you, and I'm just a stranger here. It's a new thing to do, and I'm being quite sincere. It's a new world of you, and I'm just a stranger here. It's a new thing to do, and I'm being quite sincere. It's a new world of you, and I'm just a stranger here. It's a new thing to do, and I'm being quite sincere.
Les A.R. Vance, un groupe originaire de la Nouvelle-Orléans qui avait fait le voyage du côté de Londres pour enregistrer sous l'égide de monsieur Mal Evans, qui était... Oui, c'est ça. Ils avaient enregistré des bandes du côté de Abbey Road, dans le nord de Londres, le fief des Beatles. Et ils avaient fait le buzz par rapport justement à la comparaison qu'avait... tenu les spécialistes de l'époque entre la formation de la Nouvelle-Orléans, c'est-à-dire le groupe de Tom Hartman, et ce titre World of You avec leur modèle, les tandem Lennon-McCartney flanqué de George Harrison, avec bien sûr le rigoleur Ringo Starr, les Beatles. Les A.R. Vance, donc un groupe à l'existence éphémère qui avait édité ce premier album longtemps, on va dire, non exploité, qui avait été édité une première fois en 2003, de façon, d'une manière posthume, via une compilation, carrément une intégrale de l'enregistrement avec en seconde partie les 12 premiers morceaux sur le premier album des A.R. Vance, avec les singles et les face B. Et puis une version totalement dépouillée de ce World of You, puisqu'il faut le savoir, il y avait un procédé très utilisé à l'époque, les overdubs, c'est-à-dire un rajout d'une façon ultérieure avec des instruments qui ne figuraient pas sur la maquette ou sur le titre finalisé en studio. Des rajouts de violon, de batterie, enfin des rajouts de seconde manière. Histoire de gonfler et puis donner une connotation beaucoup plus riche au morceau, comme l'avait vécu le World of You, le morceau qui ouvrait ce Resurrection, édité en 2003 chez RPM. Alors je sais que les A.R. Vance ont ressorti un album d'une façon, on va dire, quasi discrète, et il existe un single très... très très recherché des aficionados et amateurs du genre de Tom Hartman, très influencé et puis très dans la mouvance de ce qu'on avait pu écouter sur le titre précédent, Emmett Rhodes, une pop très mélodique avec un traitement limite hard rock, c'est-à-dire très dur dans les arrangements et puis dans la rythmique, et surtout ces guitares très acérées qu'on pouvait trouver sur les enregistrements de l'époque. Alors le power pop était un genre, on va dire, plutôt monté par des groupes en réaction à l'hégémonie du rock progressif. Ils étaient... ils jouaient en faveur d'un retour à une pop très terre à terre, très simple et surtout très accrocheuse. Tous les antipodes du rock progressif qui était l'étalage des prouesses de chaque musicien acquis dans ce genre musical. On va continuer avec des productions plutôt contemporaines à ce qu'on vient d'écouter. C'était un tournant entre 69 et 71, 72, avec un extrait de Jeremiah, un groupe qui lui était plutôt originaire du sud-est des États-Unis, avec Pat Walters, un autre futur grand nom de la power pop qui allait officier chez Sponge Stones, un groupe qui lui était ouvertement, on va dire, influencé par les Beatles. Et puis bah derrière, on écoutera un titre de l'unique album, aussi unique album des Sleepy Hollow, eux aussi très influencés par Paul McCartney, sa clique, les Beatles.
Thank you.
Sleepy Hollow avec Take Me Back, un titre qu'on jurerait sorti du chapeau de George Harrison, tant le mimétisme est vraiment effarant. Ça chante bien, c'est bien très très bien orchestré. Le groupe s'appelait Sleepy Hollow, l'album était sorti en 72, un petit peu dans le cheminement du démantèlement des Beatles et puis surtout l'émergence du groupe Badfinger, qui allait donner une suite à la power pop anglaise. Ce groupe est bien entendu américain, mais il a bénéficié d'un certain succès d'estime en France, à tel point que l'album est sorti en France pour le marché européen chez Philips Records, alors qu'aux États-Unis, il est sorti sur un petit label indépendant qui s'appelait Family, un truc comme ça, Records, évidemment, puisqu'on parle de disques dans Oncologie, l'émission à remonter l'histoire du rock. Pish and Nick, on va retourner avec notre tandem de l'Iowa, un petit peu à la fête cette semaine avec la compilation qui s'appelait Not For Sale, qui regroupait bien entendu les enregistrements du tandem Arliss, Pish et Larry Lee, un petit peu un tandem, un petit peu à l'accroche similaire d'un Phil Seymour, un Dwight Whaley. On va écouter, aller au hasard, When I Get Back Home, si je suis bon. Ouais, When I Get Home, voilà. Un titre très inspiré par Badfinger. Et puis derrière, on écoutera. Ah, je vous laisse la surprise, on en parlera juste après. Restez bien à l'écoute de Radio Campus Orléans 88.3.
And I
À l'instant, un extrait de l'unique album Circus, un groupe qui, comme on le devine, pas pour ceux qui sont vraiment initiés au genre de la power pop, évoque largement le spectre des Raspberries, le groupe de Cleveland, de l'Ohio, un des maîtres du genre, peut-être pas le précurseur, puisque c'est quand même un genre qui recycle, mais plutôt celui qui a contribué en grande partie à populariser le genre outre-Atlantique, le groupe de Eric Carmen et Wallis Breason, qui avait synthétisé merveilleusement bien la musique anglaise en incorporant évidemment les gimmicks du hard rock, à savoir une rythmique très, très engageante, et puis ces accords de guitare qu'on jurait issus de n'importe quelle session des Who. Voilà, les Who, bien entendu, le groupe de Pete Townshend et puis de Roger Daltrey. Circus, qui était le groupe de Monsieur Dan Ricla, et d'un autre, Phil Alexander. Un genre un petit peu affilié au genre progressif, qu'est-ce que je dis, psychédélique, bien qu'il garde son côté très rock'n'roll et très, très pop dans les harmonies vocales. Le titre, quant à lui, était sorti en single en 72-73, I Need Your Love. L'album est, quant à lui, sorti chez Metro Media Records. Et à ma connaissance, il n'a pas encore été réédité. Et c'est bien dommage. On va peut-être se quitter avec le dernier titre. Là, on va aller du côté de Los Angeles. Avec un groupe qui s'appelait Jamie, qui était un petit peu la réponse californienne au Badfinger, et puis derrière on écoutera un extrait du troisième voire quatrième album de la famille Cowsills, qui avait avec l'album édité chez London Records en 71 synthétisé merveilleusement bien les harmonies vocales des Crosby, Stills, Nash & Young et surtout la pop des Beach Boys. Alors peut-être dans le désordre, allez, on va commencer par les Cowsills et puis on enchaînera par Jamie ou vice versa. Au petit bonheur, la chance. Les Cowsills. Jamie, à l'instant dans Rockologie, l'émission a monté l'histoire du rock avec le titre Strawberry Jam Man, avec ses harmonies vocales qu'on jouerait issues d'un album de Badfinger, le groupe anglais. L'album est sorti en 68 sur le label de Papa John Philip. John Philip qui était l'un des deux membres masculin du tandem Mamas and Papas, vous savez, les hippies qui chantaient à tue-tête l'amour des fleurs en Californie. L'album, quant à lui, était sorti en 68. Il est considéré comme une réponse indirecte ou directe à l'œuvre des Bee Gees, avec ses enchevêtrements harmoniques et puis surtout ses couches successives de mélodies. On peut aussi les comparer au Move, le groupe de Birmingham hein, qui était animé par Roy Wood. Tiens, ça me donne l'idée de faire une émission consacrée à ce groupe, c'est-à-dire dantesque, et puis ô combien influençable sur la scène influencée, ou comment on pourrait dire ça, qui a très largement contribué à influencer un très grand nombre de groupes issus de la scène power pop. On va se quitter justement avec l'objet de cette émission, un extrait de la rétrospective de Peach & Lee sortie cette année, sur l'année dernière, plutôt en fin d'année dernière, sur le label Reminder. Alors vous pouvez éventuellement vous procurer cet album via leur Bandcamp, Peach & Lee, attaché, bandcamp.com. Je sais qu'il existe encore des copies. Alors le problème, c'est que c'est un objet importé des États-Unis, donc qui risque d'avoir des frais de port, des frais de douane. Mais enfin bon, hein, quand on aime, on ne compte pas. On va écouter Help Yourself, histoire de conclure à merveille ce programme consacré à la power pop. Ciao, bye, à la semaine prochaine.